Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement à l'Ouest, l'émission de Radio Immo, où l'on parle de tout, sauf d'immobilier. Et oui, on est comme ça, parce que l'orchestrateur de cette émission l'a décidé. Bonjour Philippe Boyer.
Bonjour Johanna.
Vous allez nous parler des médias aujourd'hui.
Quel rapport y a-t-il entre informer, convaincre, enseigner ou distraire? En quoi la pandémie que nous avons traversée a-t-elle changé nos façons de nous informer? Comment maîtriser les flux de rumeurs, de fausses nouvelles en tout genre? Et enfin, parce qu'il faut bien s'arrêter, les médias que nous connaissons existeront-ils encore dans les 20, 30, 50 prochaines années? On le voit, que des questions vertigineuses qui nous interrogent sur notre rapport aux médias. Des premiers signaux de fumée jusqu'au parchemin et l'imprimerie en passant par toutes les innovations technologiques, le transistor, la télévision, Internet, les réseaux sociaux, les podcasts, jusqu'à arriver à ce que nous vivons aujourd'hui avec ce déluge d'informations irriguées en permanence par une myriade de réseaux sociaux. La question de l'information et de la connaissance n'a jamais été aussi aiguë. C'est pour parler de tous ces sujets que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un invité qui, plus que tout autre, a été pendant de nombreuses années au cœur de cette information et de ces médias en France. C'est parti, droit devant, larguons les amarres, cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Yvan Levaille.
Bonjour Philippe Boyer.
C'est un très grand honneur de vous accueillir dans cette émission de Complètement à l'Ouest, émission dans laquelle nous allons parler communication, médias et radio. Ça tombe bien, puisque nous sommes à l'antenne d'une radio, Radio Immo, et qu'en plus, le média radio, en tant que tel, fête cette année son 100e anniversaire. Alors, est-il besoin de vous présenter, vous, l'homme des médias, l'homme de radio, celui que les auditeurs de France Inter ont écouté pendant des années? Je vais simplement ici rappeler quelques moments de votre longue carrière de journaliste, France Inter, Europe 1, sans oublier la presse quotidienne régionale avec la direction des quotidiens Le Provençal, et le soir, sans oublier la télévision avec le lancement de la chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale. Bref, qui mieux que vous pour mener cette discussion du jour sur notre société gavée de news en tout genre qui sont diffusées en permanence sans que nous sachions comment distinguer le futile de l'utile, le faux du vrai. Cher Yvan Levaille, nous sommes ravis et honorés de vous accueillir à ce micro, mais avant qu'on parle d'information, de médias, de démocratie, de réseaux sociaux et beaucoup d'autres sujets, nous avons coutume de commencer cette émission par un court extrait sonore. On l'écoute.
Alors voyons ça, quel genre d'information vous me laissez là? Nixon, Singapour, Lac Carrier, vous foutez de moi?
Dépêche, à toi dans deux secondes.
Et voici Adrian Cronauer.
Good morning Vietnam! Salut les louveteaux, et rappelez-vous, le mercredi c'est le jour de la malaria. Alors prenez bien vos jolies pilules anti-palu et entraînez-vous à la danse du ventre au Ho Chi Minh.
Alors je pense que tout le monde aura reconnu cet extrait du film Good Morning Vietnam, avec ce passage très personnalisé de l'éphéméride vietnamien selon Robin Williams. Et vous l'aurez compris, il s'agit d'un petit clin d'œil à l'homme de radio que vous êtes, et où l'on voit que dans cet extrait que la radio et plus largement tous les médias peuvent être des sources d'informations, mais aussi revers de la médaille de propagande. Alors sans transition, première question Yvan Levaille, je me demandais en introduction si selon vous, la pandémie que nous avons traversée avait changé les façons dont nous nous informons.
La pandémie que nous avons traversée, d'ailleurs elle n'est pas traversée, elle est proprement extraordinaire, elle n'a rien à voir avec les pandémies précédentes qui ont pourtant fait un nombre incalculable de morts. Je pense à la peste, on peut aussi évoquer le choléra, la grippe espagnole après la guerre de 14-18. C'était des pandémies qui n'étaient pas mondiales, qui n'étaient pas universelles. Celle-ci, elle est mondiale. Et j'ai envie de dire, c'est la première fois que sur la planète, les gens informés, tous les gens informés, ils ne le sont pas tous, mais ont peur et craignent et redoutent quelque chose d'élémentaire, c'est-à-dire un microvirus. Et ce microvirus, vous avez vu, les médias, ils en ont tous parlé, ils en parlent tous les jours, et j'ai envie de dire, ils en parlent trop. Parce que arrive un moment, c'est comme dans l'histoire de, on crie au loup, au loup, au loup tous les jours. Lavez-vous les mains, etc. N'oubliez pas le masque. C'est-à-dire qu'on fait peur à des tas de gens qui, Dieu merci, ne mourront pas. Moi, je regrette pas l'information qui est faite sur la pandémie. Simplement, je dis, elle est de mauvaise qualité. C'est qu'on y voit les erreurs des médecins, les erreurs des scientifiques, et je dirais le contre-temps des politiques qui sont toujours à contre-temps. Mais cette pandémie, vous me posez la question, est-ce qu'elle change la société ? Évidemment.
Est-ce qu'elle change la manière de s'informer ?
Mais oui, mais elle change la manière de s'informer, parce que notre information ne suffit pas. On est obligé de dire, mais comment se fait-il que nous, en France, grâce à la vaccination, grâce aux qualités des Français, on ira même jusqu'à dire grâce à Emmanuel Macron, mais il y a quand même une chose qu'on ne nous dit pas, c'est pourquoi ça repart dans 10 pays aujourd'hui, au moment où nous parlons tous les deux, il y a 10 pays en Europe qui sont concernés par ce que le journal Le Monde d'hier ou d'avant-hier appelait l'hécatombe en Europe. Et dans cette hécatombe, la France est préservée. Question, jusqu'à quand ? Moi, je dis simplement que cette pandémie, c'est un élément de l'accélération du cours des choses sur cette Terre. Et ça, on ne l'a pas forcément mesuré, les journalistes n'en parlent pas assez. C'est-à-dire que d'un seul coup, on allait déjà très vite. Voyez plutôt la conquête de l'espace. C'est incroyablement rapide ce qui se passe. Eh bien, on découvre avec cette pandémie que sur le sanitaire, l'accélération est prise, c'est-à-dire il n'y a plus un coin de la planète qui est préservé d'une toute petite chose qui est peut-être déjà dans notre corps. C'est ça qui est nouveau et qui prouve que, j'allais dire, on va pas pouvoir économiser, éviter un gouvernement mondial un jour. Puisque la maladie est partout, puisque la pandémie est partout, puisque la misère est partout, puisque le climat se dégrade et se détériore partout. Moi, je dis, et c'est parce que j'ai vécu longtemps, j'ai 84 ans, donc je dirais, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu des dictatures, La France était entourée de dictatures. Moi, je suis né, il y avait Hitler en Allemagne, il y avait Mussolini en Italie, il y avait Franco en Espagne, il y avait Salazar au Portugal. Il y avait que des dictateurs. Et on vivait dans la guerre. Et regardez, vous avez en face de vous, je ne sais pas pourquoi, un de ceux qui ont survécu. Ce qui me donne des responsabilités supplémentaires. C'est-à-dire, je n'ai pas d'informations supplémentaires. Mais par exemple, je sais que il n'y a pas de réponse sur ce qui va arriver dans 50 ans. J'en sais rien. Et je vais vous dire quelque chose, et vous non plus. Et les candidats à l'élection présidentielle, ils n'en savent rien non plus. Ils font semblant.
C'est bien vrai tout ça. Il y a eu mi-octobre une interview dans Le Monde de la journaliste philippine Maria Ressa, qui est d'ailleurs co-lauréate du Nobel de la paix, où elle y a dénoncé le poids des algorithmes et notamment le danger que constituent les réseaux sociaux pour les démocraties. Quelles seraient selon vous les solutions pour que les réseaux sociaux reprennent leur place et rendent aussi leur rôle aux médias loin des fake news notamment ?
Eh bien écoutez, ça va être très difficile. Moi, ce qui m'accable, c'est pas Internet qui m'accable. Internet, ça a été beaucoup plus de liberté pour, j'allais dire, les peuples qui ont pu en disposer. Au début, hein, au début, c'était merveilleux. On s'est dit, ça y est, on est plus libre qu'avant. Je sais plus qui disait, le dialogue où la parole est faite, c'est Montaigne. Pour à la fois parler, mais écouter. D'un seul coup, les gens ont eu l'impression qu'on allait les écouter. Et puis, quelques années après, C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que plus personne n'écoute personne. On recevait déjà des fax et on disait « t'as lu mon fax ?» Non, on les lisait pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « mais je t'ai envoyé un email alors, et tu réponds pas ?» Non, parce que si on en reçoit beaucoup, on les lit pas. Et puis les réseaux sociaux où vous avez machin qui dit à Trucmuche et à Chose qui signe d'un pseudo et qui dit quoi ? N'importe quoi. Aujourd'hui, on a besoin de quoi ? De gens qui trient l'information. Mmh. Et je parle pas pour moi parce que je suis la retraite a largement sonné. Mais je me dis, il vous faut, si on n'a pas dans ce pays des gens qui signent ce qu'ils disent et qui signent et qui disent voilà, j'habite à tel endroit, je suis payé tant, mon journal s'appelle celui-là, il est La Croix. Bon, et je dis La Croix exprès, parce que comme ça on sait qu'il est chrétien. Attendez, mais il peut donner de bonnes informations. Bon, et on n'est pas obligé de lire celles qui concernent Dieu, Jésus et tous les saints du calendrier. Bon, donc, aujourd'hui, c'est un fleuve qui charrie des pièces de qualité, des louis d'or, d'une certaine façon, et de la crotte, et des scories, et dans lesquelles, comment voulez-vous que le citoyen d'aujourd'hui puisse nager dans ce fleuve où, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ?
C'est impossible à trier l'information, très difficile à trier.
Eh bien si vous avez quelqu'un qui dit... écoutez, on peut trier l'information, je vais vous dire quelque chose. Chacun d'entre nous, les gens qui ont une habitude de leur gastronomie et de leur santé, on peut dire ils sont envahis par la publicité, mais ils n'achètent pas tout ce qu'on vend dans les magasins, dans les grands magasins. Les gens, je les vois aujourd'hui se comporter d'une façon extraordinaire. Ils regardent les étiquettes, ils regardent ce qu'on vend. Ce que vous mangez, si vous le mangez, sans regarder, sans vous informer, et si vous êtes malade, c'est bien fait pour vous. Eh bien, l'information, c'est exactement la même chose. Si vous consommez de l'information dégueulasse, vous deviendrez un gros dégueulasse.
Pensez-vous qu'aujourd'hui, les médias doivent ou devraient plus s'engager ? Évidemment, pas s'engager pour un camp politique, mais s'engager pour de grandes causes. La défense des valeurs républicaines, la cause environnementale, l'éthique du journalisme. Dit un peu autrement et un peu brutalement, est-ce que les médias représentent encore la société ?
Non. S'ils la représentaient, ce serait merveilleux et la démocratie irait mieux. Les médias ne représentent plus la société. Je dirais que...
Pour quelle raison ?
Parce que ils sont aujourd'hui tous, presque tous, entre les mains d'une élite qui... Des élites... Il y a plusieurs élites, finalement. Les élites de la technique et des autres. C'est-à-dire que si vous êtes, vous travaillez dans le nucléaire, les gens qui travaillent dans le nucléaire... théoriquement, on devrait les entendre à la radio, à la télé, on les voit pas. On voit des gens qui disent « Ah non, non, moi je suis pour, ah non, 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 moi je suis contre, moi je veux arrêter, regardez les Allemands, etc. » Ça, c'est du commentaire, on s'en fout. Mais quand vous avez quelqu'un qui vient devant vous et qui parle, et j'allais dire qui met toute sa morale dans la balance, et je pense à Axel Kahn, qui est mort il n'y a pas si longtemps du cancer et qui s'est battu toute sa vie contre le cancer et qui a eu le courage de venir dire à la télévision et vraiment dire « voilà, je vais mourir ». Et il venait pas pour faire du cinéma.
Bien sûr.
Il venait pour dire « je vais mourir » et il pouvait d'autant plus le dire qu'on va tous mourir. Voilà. Bon,
on croit le savoir.
Et oui. Non, mais je veux dire, on croit le savoir. Donc, je si vous voulez, on approche tous la vérité. On sait très bien qu'on n'arrivera jamais à la totale vérité, mais on peut approcher. Et ne jamais, comme disait Jaurès, ne jamais partir du réel sans oublier l'idéal. C'est-à-dire, l'idéal, c'est la vérité pure. Je regarde, je, je regarde la jeune femme qui est, avec, nous et j'ai envie de lui dire, bon, les femmes disent toujours la vérité, chacun sait, hein, elles ne mentent jamais.
Évidemment.
Mais les hommes sont pareils, ils disent toujours la vérité. La question, c'est pas de il faut vraiment l'approcher le plus possible. Et la République, c'est la vérité. Et le totalitarisme, c'est le mensonge. Maintenant, vous avez des gens qui vivent en République et qui ne disent pas toute la vérité. Vous avez, par exemple, aujourd'hui, des hommes politiques qui sont de parfaits démocrates.
On parle pas, on ne cite
non,
pas
de nom. Non, mais je parle pas de politique. Je n'en parle pas. Et vous avez de fiefiers menteurs. C'est-à-dire tous ceux qui ont dit « demain, on rase gratis ». Vous voyez ? Là, je parlais, moi, de ma génération, des gens qui disparaissent les uns après les autres, que ce soit Étienne Moujotte et quelques autres. Je veux dire, la presse subit de sales coups. Je vois à proximité d'ici, il y a une place avec trois noms de trois reporters, trois journalistes qui sont morts d'une certaine façon pour la France, pas pour la France. Ils sont morts pour la vérité. Et c'est vrai que le journaliste qui va voir là-bas si j'y suis. Celui qui va voir là-bas, et ce sont souvent des femmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va chercher ? C'est pas du tout de l'excitation. C'est pas parce que c'est malsain. Il va chercher la vérité pour la porter. Et je veux dire, faut pas s'agenouiller devant lui. Faut dire, ne le confondons pas avec celui qui travaille de sa chambre et qui écrit ses articles après avoir lu tout ce qu'écrivaient les autres et venir répéter la même chose. Moi, si je suis un peu aujourd'hui triste face à ce que devient la presse, c'est que, comment dire, comme disait Coluche, il y avait le caviar et le charbon. Alors, il disait, c'est noir, le caviar est noir, le charbon aussi, mais le caviar, c'est quand même meilleur. Ça grince pas. Le caviar, c'est mieux, ça grince pas sous la dent. Moi, je vais vous dire, j'ai pas de supériorité particulière, mais je sais quand un titre est menteur. Je sais quand on nous raconte n'importe quoi. Je sais, par exemple, que quand les Russes qui vivent en Europe disent aujourd'hui qu'ils ont 1200 morts chaque jour du Covid, quand ils racontent qu'ils ont ils ont le Sputnik 5, ils ont trois manières de
contrer le virus,
de vacciner les anciens soviétiques, et ils nous racontent des histoires. Ils mentent parce que on sait très bien que Poutine ment un petit peu plus que les autres. Et vous savez pourquoi il ment plus que les autres ? Parce qu'on ne lui demande pas la vérité. Le paradoxe, c'est ça. C'est-à-dire que les Français cherchent la vérité. Tous ceux qui ont appris à l'école, à l'université, qui ont eu une éducation qui leur permet de dire « Est-ce que vous nous dites la vérité, monsieur, qui, etc. D'où tenez-vous cette information ?» Voilà la question qu'on doit poser aux journalistes. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous avancez ? Est-ce que vous pourriez me la montrer, cette preuve ? Etc. Voilà comment fonctionne, j'allais dire, le français honnête, qui cherche dans la presse celle qui est honnête, même si elle a des idées qui ne correspondent pas aux siennes. Si vous allez chercher quelque chose qui vous correspond à vous, vous dites, bon, j'aime bien le journal. Oui, j'aime bien le journal parce qu'il a les mêmes idées que moi. Moi, ça me dérange pas qu'on me dise ça. Ça me dérange pas que autrefois il y avait le communiste, il allait lire l'Humanité parce qu'il est en russe. Humanité, c'est la Pravda, ça voulait dire
la vérité.
La vérité. Question, est-ce que c'était la vérité ? Non, c'était le mensonge. Et est-ce que dans la presse occidentale et dans la presse républicaine, est-ce qu'il n'y a pas de mensonge ? Ben évidemment, il y en a. Évidemment, il y en a. Mais personne ne va la chercher. Oh, j'ai un exemple, je vous le donne. Parce
allez,
que...
on enchaînera juste après.
Et après, vous enchaînerez. Non, mais c'est un exemple merveilleux. Je ne l'ai pas apporté, mais j'aurais dû vous l'apporter. Je le fais en famille, ça. Y a un journal qui est un bon journal, que moi je lis. D'ailleurs, on me l'envoie gratuitement, et je le lis toujours parce que je lis le plus possible les journaux. Bien, j'aime ça. Et je les lis sur le papier. parce que j'aime froisser le papier. Tenez.
On l'entend, on l'entend.
Vous l'entendez, j'ai les jaunes. Et je le lis avec un crayon. Je souligne tout ce qui me surprend, m'étonne, m'épate, etc. Très bien. Et il y a un journal, un hebdomadaire, qui parle des valeurs. Des valeurs d'aujourd'hui. Il parle des valeurs d'aujourd'hui. Et j'ai retrouvé dans mes archives un numéro des valeurs d'aujourd'hui. Vous voyez, je ne donne pas le nom du journal.
N'allez pas plus loin.
Et sur ce numéro que j'ai retrouvé dans mes archives, j'ai cru que c'était un numéro de maintenant. Il y avait la photo d'un garçon qui on ne sait pas s'il va être candidat, allez vous devinez, et son nom commence par Z, je n'en dirai pas davantage, et je le vois sur la couverture, et vous pourrez vous amuser à le rechercher si vous voulez, et je me dis, personne ne le montre à la télévision et moi j'ai envie de le montrer. Alors il y a écrit Z, président, sous une photo en grand qu'on appelle la cover story. Et je dis à mes amis, à ma famille, je dis, tiens, regarde, ils me disent, ah bon, oh, t'as acheté ça, toi? Je dis, non, mais attends, regarde la date. Et ils regardent la date, et la date, c'est 2015. Comment ça? Il était déjà candidat président en 2015? Mais c'était il y a 6 ans.
C'est, il y a déjà 6 ans, incroyable. On va marquer une courte pause musicale maintenant avec le titre que vous avez choisi. Et quel titre, Yvon Levaille? C'est Göttingen, interprété par Barbara. C'est un titre de 1964. On l'écoute et on revient juste après dans Complètement à l'Ouest.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Oh, que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Tout de même, à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
Complètement à l'Ouest, Philippe Boyer.
Et nous sommes de retour sur le plateau de Complètement à l'Ouest où en ce mois de novembre avec Philippe Boyer, nous sommes ravis, absolument ravis de l'écouter, de le recevoir. Yvan Levaille est avec nous aujourd'hui. Yvan, on connaît le poids et l'importance des réseaux sociaux chez les adolescents. Est-ce que selon vous, l'école ne devrait pas prendre plus sa part concernant la question de l'éducation aux médias, à l'information et à l'esprit critique ?
Alors elle le prend en partie, si vous voulez. Il y a des associations qui rencontrent des enseignants, des chefs d'établissement, et qui apprennent à certains lycéens, collégiens et même enfants plus petits à faire des, par exemple, des journaux scolaires, des journaux, ils les font eux-mêmes, à faire de la radio, et ils font de la radio. Et je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Je le trouve d'autant plus que je l'ai fait il y a des années avec un journaliste du Monde qui s'appelait Jean-Marie Dupont, avec un autre, un journaliste belge tellement sympathique, Albert Duroy de Blicky, et quelques autres comme ça, Maryse Bacher, Wolinski, qui est mort dans les conditions que vous savez. Et on était contents de faire entrer les journaux et la presse à l'école. Mais je vais ajouter quelque chose. Moi, ce qui me frappe et m'a toujours frappé, c'est que ma génération et les générations qui ont suivi, on leur a donné des cours de français, très bien, des cours de littérature, très bien. Notre président de la République, Emmanuel Macron, a été un très bon élève. Il a même joué dans des pièces que réalisait, que scénarisait Brigitte Macron, son épouse d'aujourd'hui. Et c'est très bien, c'était très bien de faire ça, faire entrer la parole et la pensée qui est derrière dans les établissements scolaires. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi on fait lire ? C'est très bien de faire lire Andromaque et travailler sur Andromaque, travailler sur les pièces, les classiques, pièces de théâtre classiques qu'on donne à la Comédie française, Dieu merci. Mais pourquoi on fait rien pour le cinéma ? Pourquoi on n'apprend pas aux enfants des écoles à lire des images. Ils vivent dans un monde d'images et on ne leur montre pas, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'analyse des images dans un établissement scolaire.
D'éducation à l'image.
Il n'y en a pas. Pas d'éducation à l'image. C'est-à-dire que ils sont chez eux, en famille, et alors eux, il faut les voir, les gosses, hein, y compris les tout-petits de maternelle, ils accèdent à des images, mais quasiment dans leur berceau, dans leur parc. Et à l'école, non, jamais. Alors on va dire, bon, c'est très bien de les faire jouer une fable de La Fontaine ou des choses comme ça, mais apprenons, et de lire des livres, lire, c'est la lecture qui permet de penser autrement, mais ils sont dans un monde d'images, de beaucoup d'images, qui envoient toute une série de signaux, et on leur a pas dit, dis donc, regarde là, tu vois le premier plan là, mais c'est pas le premier plan qui est intéressant. Là, au premier plan, tu vois un monsieur qui embrasse une dame. Mais regarde derrière, il y a un petit garçon qui se met le doigt dans le nez. Pourquoi tu le vois pas, le petit garçon qui le voit ? Je veux dire, il faut apprendre à lire gros plan, plan moyen, etc. Je dis pas de leur faire faire des cours de cinéma, mais de leur montrer comment on souligne avec du son. L'image, il y a le son. Elle n'est pas sans le son. C'est que c'est formidable, le cinéma. Et d'ailleurs, ça devait pas... On avait présenté ça au moment de l'invention du cinéma comme une expérience qui n'aurait pas d'avenir. Tu parles. Le cinéma a un avenir. Les gens vivent d'images. Ils en ont plein la tête. Et c'est tant mieux. Et on ne leur apprend pas à lire les images.
Alors justement, en matière d'images, il y a la multiplication des influenceurs sur Internet qui font pas évidemment le même métier strictement que les journalistes, mais qui, quelque part, dans leur style, le font quand même, peut-être avec moins de rigueur. Là encore, et en tant que journaliste, quel est votre regard sur cette génération de YouTubers comme on les appelle, qui sont presque à parité avec les journalistes professionnels, qui touchent des milliers, voire des millions d'internautes, et qui ont de plus en plus tendance à ne suivre que, donc à ne dépendre que de cette information diffusée par ces nouveaux médias sociaux, en l'occurrence YouTube par exemple.
Je ne veux pas vous choquer, mais je vais vous dire quelque chose. Être journaliste, c'est exercer un métier. Voilà. Moi, il y avait mon confrère et ami Pierre Bouteiller. Il se moquait un petit peu de ce qu'étaient devenus les radios d'aujourd'hui. Il y a déjà, il y a plus de 10 ans. Et alors, son imitation, elle commençait comme ça. Bonjour, qui nous appelle ? Ah, c'est Philippe. Et vous habitez... Oh, quel joli prénom. Vous habitez où, Philippe ? J'habite à Nantes. Oh, quelle belle ville, Philippe. Oh, et qu'est-ce que vous faites à Nantes ? Je suis plâtrier. Oh, oh, alors ça, alors... Donc, vous construisez des maisons et des appartements, etc. Bon, écoutez, ça, c'est le marché. Moi, ça me dérange pas que... Aujourd'hui, par exemple, je vais d'ailleurs vous dire pourquoi on en abuse à la radio et à la télé, du discours des gens dont c'est pas le métier. C'est pas à nous, hein, c'est pas aux gens des médias d'aller dans la rue. Parce que vous voyez aussi ce qu'on appelle le reportage. Moi, j'ai exercé des responsabilités dans la profession, mais j'ai détesté toute ma vie, et je le déteste encore, le micro-trottoir. Alors, par exemple, l'essence va augmenter. Alors, télévision. Ah oui, l'essence va augmenter parce que, etc. Il faut que vous compreniez parce que... Alors, le public, il comprend pas, parce que l'essence, plus 10%, 2 euros le litre, c'est un peu excessif, je peux pas le payer, etc. Alors, tout de suite, reportage. Alors là, vous voyez un monsieur, il a un chapeau feutre, c'est un vieux monsieur, il dit « Comment voulez-vous qu'avec ma voiture et le prix de l'essence et j'ai le gaz et les impôts ?» et ainsi de suite. Et puis on prend un jeune aussi qui a une casquette à l'envers, hein, c'est-à-dire la visière est derrière. Alors il dit « Tu trouves pas l'essence trop cher ?»« Oh bah ouais, pour ma moto, tu te rends compte comment ça coûte ?»« Je vais être obligé de refaire du vélo, hein, ça ne me portera pas si loin. » Et puis alors il y a une vieille dame qui vient là, tout émouvante derrière, et dit « Écoutez, déjà, j'ai pas l'ascenseur chez moi, je monte à pied, et je peux même plus prendre ma petite voiture pour aller faire mes courses. » Question. Et quand je vois ça, je dis « Quelle honte ! Quelle paresse du journaliste qui fait ça ! Comment vous pouvez interroger ?» Et alors on va me dire « Ah, vous voulez pas que les gens de la rue parlent à la radio et à la télévision ?» Mais attendez, ils parlent pas les gens de la rue. On les choisit. On choisit le jeune homme pour dire « Ah, vous avez vu, lui, hein, c'est la banlieue. Hein, hein. Ah, vous avez vu. » Mais qu'est-ce que c'est que cette hiérarchie ? Mais attendez, donnez-moi un reporter qui revient, qui a vu les choses. Amenez-moi non pas un faux savant qui fait des algorithmes et puis qui dit « machin sera élu », etc. Non, c'est pas possible de vivre comme ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. On a des représentants élus pour représenter le peuple. Et d'ailleurs, le peuple, je vais vous dire quelque chose. On ne le montre pas à la télévision. Voilà. Il faut savoir qu'on ne le montre pas. S'il n'a pas un gilet jaune, il n'y est pas. Voilà. Alors... C'est d'ailleurs ce que disait Coluche. Il disait... Vous savez pourquoi, Jean du Pape, vous n'êtes pas légitime. Le peuple, il n'est pas légitime. Il n'a pas été légitimé. Hein? On pense dans les milieux, c'est quoi les milieux, machin ? On dit à l'Élysée, qui dit à l'Élysée ? Il y a 500 personnes à l'Élysée. Alors, quand on dit l'Élysée, on pense que c'est Macron. C'est pas Macron. Ça peut être le gardien de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Non. Les journalistes, je ne les accuse pas. Ils sont devenus paresseux. Ils sont devenus paresseux parce que, vous voyez, là, on a le temps de parler. Au fond.
Alors, il nous reste assez peu de temps et Philippe,
non, mais on a
Philippe le plâtrier de Nantes, vous dit qu'on
non,
a 35
mais écoutez,
minutes.
Écoutez.
On prend le temps de parler.
Écoutez, on prend le temps de parler et d'écouter. Aujourd'hui, mettez-vous à la place des femmes qui font la météo le soir. Elles sont écrasées entre la publicité et vous n'assistez pas aux conférences de rédaction où le matin, le rédacteur en chef dit « Qu'est-ce que tu veux faire, toi ?»« Ah ben moi, je voudrais évoquer les difficultés de tel ou tel, etc. »« Oui, oh non, c'est chiant. Non. Et tu veux combien, là? T'as combien ?»« Oh ben, il me faut 1 minute 30. »« Non. 20 secondes. »
Allez, 35 minutes d'émission pour Complètement à l'Ouest. On est presque au bout de l'émission et on voudrait vous demander une faveur, cher Yvan Levaille, c'est de consacrer 3 minutes à la rédaction, enfin, non pas à la rédaction, à l'exposé d'une revue de presse. Vous en avez fait des milliers sur France Inter jusqu'à assez récemment. Et ne serait-ce que pour le plaisir d'avoir l'analyse à chaud de la presse du jour, une presse papier, on va entendre le froissement du papier dans le micro. Alors, on voudrait vous écouter pendant 3 minutes. Au-delà de ces 3 minutes, malheureusement, on devra presque rendre l'antenne.
Alors, on va quand même préciser que cette revue de presse a été réalisée aujourd'hui, date d'enregistrement de l'émission. Et nous sommes le 17 novembre 2021.
Yvan Levaille, c'est à vous.
Alors, je vais tenir dans les 3 minutes. Là, je vais faire ce qu'on fait et qui est toujours très réducteur. On le fait à la télévision, c'est-à-dire on donne les titres. Bon, si vous donnez le titre du journal, à quoi bon faire une revue de presse? Faut chercher la pépite. Et moi, j'ai fait la revue de presse pendant des années, je ne sais même plus, des décennies. Je vais simplement vous dire une chose, je me levais à 4 heures du matin. Voilà. Et je consacrais à lire la presse. Alors, certaines choses en diagonale, certaines choses le crayon à la main et en soulignant, et certaines choses de chic, par exemple. J'ai sous les yeux le Figaro. Le missile russe qui relance la bataille de l'espace. J'en ferai rien dans la revue de presse. Fiscalité des entreprises, malgré les baisses, la France a toujours la main lourde. Ah ben non, c'est pas vrai, c'était pas vrai l'année dernière, parce que, Dieu merci, alors, et quand Monsieur le maire dit que la croissance revient et que, etc., alors quoi? Puis je vois la course aux étoiles, oui, ah ben la course aux étoiles, elle existe depuis que les Russes ont battu les Américains pour mettre, être là, les premiers, les vainqueurs de l'espace. Le Figaro, un missile russe relance la compétition dans l'espace, tant mieux. On va retourner sur la Lune et on va voir ce qu'on peut y faire. Enfin, je vois l'Humanité. Tiens, le journal. Lanceur d'alerte, comment protéger ces voix qui dérangent? Il y a des gens qui n'aiment pas les lanceurs d'alerte. Non, les gens le lisent. Et puis on les met même sur... alors là, le web, il ne se prive pas des lanceurs d'alerte. Hein. Là, je vois la Croix, la bataille de l'espace. Ah, donc... Ça crédibilise l'information du Figaro, même la Croix. Alors, il parle d'autre chose ou pas? Un quinquennat fiscalement favorable aux plus aisés. Oh là là! J'aurais cru lire ça dans l'Humanité. Aujourd'hui, le Parisien. À quoi joue Poutine? Biélorussie, station spatiale, gaz. À quoi joue Poutine? Poutine ne joue pas. Poutine essaie de tenir, il est une sorte de Staline moderne, c'est-à-dire plutôt gentil, aimable, il n'a rien à voir avec Staline, et donc il ne joue pas parce que c'est dur de gouverner l'ex-pays soviétique qui est resté totalitaire malgré lui, et Poutine ne joue pas parce qu'il a des gens avec qui il ne sent pas très bien. Ce sont les Chinois. Hein. Et Poutine, il aimerait bien qu'on fasse une alliance, mais où il serait le maître, lui, on le considérerait, et où on pourrait être demain, dans 20 ans, peut-être avant, peut-être après, si l'Europe venait équilibrer les États-Unis et donner une des clés à Poutine pour dire, bon, guerre aux Chinois. Et oui, mais ce serait la guerre. Et alors, la guerre entre des milliards d'hommes, tu parles coco. Voilà.
Merci, merci infiniment.
J'ai fini.
Yvan Levaille.
J'ai fini. Oh non, il y a un titre merveilleux. Dans le monde, en Russie, une hécatombe sur fond de défiance. Ça, c'est L'hécatombe, c'est les 1200 morts par jour.
Que vous citiez tout à l'heure.
Dont on parlait tout à l'heure. Et fond de défiance, c'est-à-dire que les Russes, quand ils entendent des nouvelles comme ça, ils n'y croient pas parce que c'est la nouvelle de l'État. Et ils savent que l'État leur, en question leur ment depuis 1917.
Merci infiniment, Yvan Levaille, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de cette émission complètement à l'ouest et surtout à la fin de ce petit exercice de revue de presse en tant que cerise sur le gâteau de cette émission passionnante.
On était à l'ouest, on était bien
complètement à l'ouest. Nous étions complètement à l'ouest. Voilà, c'est fini. Complètement à l'ouest pour cette émission est terminée et on se retrouve le mois prochain. Et puisque cette émission de décembre sera diffusée quelques jours avant Noël, nous parlerons le mois prochain de traditions culinaires d'Europe et en particulier de notre voisin italien. Je ne vous en dis pas plus. D'ici là, il ne vous reste plus qu'à nous souhaiter bon vent, cap à l'ouest, complètement à l'ouest. On se retrouve le mois prochain. À bientôt.
Il est complètement fou ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger.
Ah, bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.